Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer,
chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers auditrices et auditeurs, une chaleureuse bienvenue dans la salle des Palmes pour notre émission sur la fête de Noël. Noël devrait être une fête de la paix et de l'unité. Et les palmes sont le symbole de la paix. Mais la paix règne-t-elle dans le monde? La paix règne-t-elle entre les êtres humains? La paix règne-t-elle dans les familles? La paix règne-t-elle entre l'homme, la nature et les animaux? Des questions sur Noël, des questions sur la paix. Noël représente le prince de la paix, Jésus, le Christ. Il y a 2000 ans, il est venu à nous, les êtres humains. La sagesse divine en habit terrestre, Gabriel, que Dieu, l'Éternel, appelle sa prophétesse et messagère, enseigne aujourd'hui qui il a été, pourquoi il est venu et que signifie son acte de rédemption. Nous avons préparé des notes que nous lirons en partie au cours de cette émission.
Haben wir für Sie ein Manuskript vorbereitet, von dem wir teilweise vortragen werden.
C'est à nouveau Noël. Il est dit que Noël est la fête de l'amour. Beaucoup de personnes habituées à réfléchir se demandent ce que signifie ce qualificatif fête de l'amour. En effet, regardons ce qui se passe autour de nous. Dans le monde entier, Noël est de plus en plus un carnage. Les animaux souffrent indiciblement sous le joug de la dureté de cœur des êtres humains. La nature est violentée de la façon la plus cruelle qui soit. Dans tous les pays, des gens consomment des cadavres d'animaux, leurs frères et sœurs de la création.
Wie sieht es aus in der traditionellen Christenheit?
À quoi ressemble la chrétienté traditionnelle? Également dans ce qu'on appelle l'Occident chrétien, il est de tradition de faire souffrir les animaux, de les massacrer, de découper en morceaux leurs cadavres et de les consommer. Et on dit que Noël est la fête de l'amour. Mais de quel amour s'agit-il? Beaucoup de gens ont oublié le sens de la fête de Noël. Ils se rappellent peut-être de la petite crèche, du petit enfant reposant dans la mangeoire du bœuf et de l'âne, de Marie, de Joseph et de quelques bergers entourant l'enfant Jésus. À l'heure actuelle, beaucoup d'enfants ne sont plus du tout conscients de la signification de Noël. Ils y associent les cadeaux que le Père Noël devrait leur apporter. Et les adultes, ils font la course aux cadeaux. Ils réfléchissent à ce qu'ils veulent offrir ou doivent offrir, tout en pensant à ce qu'ils vont recevoir, eux aussi, comme cadeaux en retour. Ils se pressent, se déchaînent pour faire attendre tous les achats, car les jours de fête approchent. Cette frénésie finit par s'épuiser dans la course aux achats destinés aux jours de fête. Aliments, boissons, etc. En l'honneur de la fête, on décore aussi éventuellement un arbre de Noël, littéralement abattu dans la forêt. On y accroche des décorations, puis on le met à la poubelle quelques jours plus tard. On dépose un tas de cadeaux sous l'arbre et dans l'attente que les souhaits émis à l'intention du Père Noël soient accomplis, les yeux des enfants s'écarquillent toujours plus. Les enfants sont éventuellement aussi tenus de chanter quelques chants de Noël traditionnels, quelques chants pour enfants, et les adultes les accompagnent courageusement. Venez les enfants, accourez, venez tous. Voyez dans la crèche l'enfant nouveau-né. Peut-être que certains membres de la famille regardent admiratifs la jolie petite crèche, le petit enfant Jésus, Marie, Joseph et les animaux, le bœuf et l'âne, bien modelés ou finement taillés dans du bois.
Qui, à notre époque, se demande encore pourquoi, il y a 2000 ans, dans les tables de Bethléem, est né l'enfant que Marie et Joseph appelèrent Jésus? Qui s'est incarné dans l'enfant Jésus? On ne parle que rarement sous cet angle de l'enfant Jésus qui devint ensuite un homme. Tout au plus, il est appelé Jésus de Nazareth. Il est encore plus rare que l'on mentionne qu'il ait été un grand enseignant et un immense prophète. Dans les églises, à Noël, on entend tous les ans les mêmes discours enjôleurs sur la petite crèche et l'enfant Jésus. Puis on entonne des chants de Noël pour enfants, comme « Venez les enfants, accourez, venez tous, voyez dans la crèche l'enfant nouveau-né ». Les chrétiens d'église ont-ils pris conscience que l'enfant a fini par grandir? Se demandent-ils qui s'est incarné à Bethléem dans le petit enfant? Et prennent-ils conscience que l'enfant a grandi, mûri et est finalement devenu un homme adulte que les chrétiens appellent Jésus de Nazareth? Pour certains, nos questions sont peut-être désagréables à entendre, car beaucoup de ceux qui fêtent Noël sont la plupart du temps tout à fait satisfaits de l'atmosphère et des discours enjôleurs qui leur sont proposés. Si c'est votre cas, alors éteignez votre poste et continuez à vous consacrer au chant enjôleur de « Venez les enfants, accourez, venez tous, voyez dans la crèche l'enfant nouveau-né ». Cependant, il y a sûrement aussi beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs qui s'intéressent au grand événement qui a eu lieu il y a environ 2000 ans dans les tables de Bethléem. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui.
Il y a plus de 2000 ans, le Fils de Dieu est venu vers les hommes en Jésus, le fils de Marie et Joseph. L'enfant a grandi et est devenu un homme, Jésus de Nazareth, le plus grand prophète de tous les temps. Jésus a enseigné aux hommes les lois spirituelles du royaume de Dieu. Il leur a enseigné, et nous a enseigné à tous, comment les commandements de Dieu donnés à travers Moïse devraient être mis en pratique. Il nous a apporté son sermon sur la montagne, dans lequel nous trouvons des enseignements extrêmement importants pour notre chemin de retour dans la patrie éternelle. Sur le mont Golgotha, alors qu'il était sur la croix, ses dernières paroles ont été « Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Nous sommes-nous déjà demandé ce que Jésus, le Christ, a voulu dire par ces paroles « Tout est accompli » afin d'en comprendre le sens? Nous voulons poursuivre nos explications.
Gott ist allgegenwärtiger ewiger Geist, das ewige
Dieu est omniprésent, Esprit éternel, la loi éternelle de l'amour, de la paix et de l'unité. Dieu, l'Éternel, s'est donné forme à partir de sa loi. Il s'est donc, si l'on peut dire, manifesté. Nous nommons cet être de lumière suprême, noble et majestueux, qui recouvre de son rayonnement toute chose, Dieu Père. Dieu Père est le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui, Dieu Père, qui a créé ce royaume éternel merveilleux, le royaume de la lumière, de la force, de l'unité, de la paix, dont nous sommes tous issus au plus profond de notre âme. Que nous soyons incarnés ou âmes dans les plans de purification. Dieu Père a contemplé et créé des êtres divins, des êtres spirituels dont la patrie éternelle est le royaume de Dieu. Cette patrie éternelle est enracinée au plus profond de l'âme de chacun de nous. Au plus profond de notre âme, nous sommes donc des êtres divins, des êtres spirituels qui ont été contemplés et créés par Dieu, notre Père céleste. Le corps spirituel divin est lumière et amour, paix et unité. Il est à l'image de Dieu Père. Notre patrie éternelle et véritable est donc le royaume de Dieu. C'est là, dans le royaume de Dieu, que nous serons à nouveau en tant qu'êtres divins, lorsque, avec l'aide du Christ de Dieu, nous aurons purifié et libéré notre âme des programmes négatifs de nos aspects trop humains. Nous serons alors à nouveau des êtres spirituels pour l'éternité. Dès que nous avons retrouvé notre forme originelle spirituelle, nous sommes à nouveau chez nous, dans les demeures éternelles dont Jésus a dit à peu près en ces termes, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures inoccupées. » Oui, elles sont inoccupées car nous sommes encore dans la chair. Cependant, grâce au puissant acte d'amour du Christ de Dieu, du co-régent du royaume de Dieu qui s'est incarné dans le petit garçon Jésus, nous retournerons tous, en tant qu'êtres divins, dans la patrie éternelle. Par son amour fraternel et divin pour nous les êtres humains, le co-régent du royaume de Dieu, le Christ, a sauvé toutes les âmes.
Was geschah einst im Reich Gottes?
Que s'est-il un jour passé dans le royaume de Dieu? De nombreux êtres divins, des êtres spirituels, que nous appelons aussi anges, ressentirent en eux qu'ils étaient présents dans tous les règnes de la création pure. Ils reconnurent qu'ils étaient bien loi comprimée, issue du courant éternel de la loi, sans pour autant être omniprésent comme Dieu. En tant qu'être manifesté, créé, à partir du courant universel de l'Esprit, ils étaient de nature divine. Cependant, pas la loi universelle elle-même, Dieu, qui est omniprésent, c'est-à-dire dont la présence embrase toute chose et rayonne en toute chose. Beaucoup ne se satisfèrent plus d'exister seulement en tant qu'être spirituel, en particulier un être spirituel féminin du sanctuaire céleste. Devoir se limiter à être un être divin lui déplut. Cet être féminin ne voulait pas se satisfaire de sa tâche divine. C'est pourquoi elle voulait retourner directement dans le courant éternel, dans la loi éternelle et fluide, appelée également Esprit ou Esprit de Dieu. Avec nos mots humains, nous dirions, elle voulait à nouveau être dissoute dans le néant. La loi éternelle et fluide est le courant omniprésent, la force créatrice de l'existence pure à l'origine de la création, du royaume de Dieu, et à partir de laquelle sont créés également les êtres spirituels. Un certain nombre d'êtres spirituels aspirèrent donc à retourner dans le courant originel. Ils voulaient dissoudre la création de Dieu pour ensuite créer à leur guise. Ils voulaient donc être eux-mêmes des créateurs et finalement des dieux. Dieu est cependant existence éternelle et originelle, lumière éternelle et originelle, la puissance universelle et la majesté suprême des cieux. Dans son royaume, c'est sa volonté de créateur qui prime. Son agencement des mondes célestes, de l'univers spirituel pur, est incontestable, c'est-à-dire absolu.
Les êtres spirituels rebelles continuèrent à s'éloigner de Dieu et par leurs aspects contraires à la loi divine, par leurs charges, ils tombèrent toujours plus bas, dans des domaines de basse vibration. Ils dégradèrent tout leur être, y compris leur comportement. C'est la raison pour laquelle ils ne purent plus rester dans le royaume de Dieu. Il est raconté que Michaël a fait sortir les êtres de la chute du royaume de Dieu. Michaël, l'ange de la loi de la volonté, les escorta à travers tous les plans célestes jusque dans des domaines inférieurs. Ils durent quitter les domaines de matière subtile, car ils s'enfoncèrent inexorablement dans leur état de conscience, dans leur volonté propre. Au fur et à mesure de cette chute, d'autres êtres spirituels rejoignirent les rangs des nombreux êtres rebelles. Dans le royaume de Dieu infini, il y a de très nombreuses familles divines qui ont vu l'un des leurs se joindre à ce qu'on appelle la chute. Tous ces êtres spirituels tombèrent toujours plus bas et s'enveloppèrent toujours plus de leur conception négative, de leur comportement négatif contre Dieu, la lumière, contre le grand amour du Créateur, de Dieu, contre leur Père éternel et originel. Peu à peu, ils se densifièrent. Au cours d'une période de temps quasiment inimaginable à notre esprit humain, se développa finalement une enveloppe de matière grossière, un corps physique pour l'être spirituel chargé, que nous avons l'habitude d'appeler âme. Ils continuèrent à aspirer à la pensée de la chute, qui était de dissoudre tout ce qui est donné et voulu par Dieu.
Les êtres qui prirent le pouvoir dans le processus de la chute et qui influencèrent en conséquence les êtres qui s'étaient détournés de Dieu, on parle aussi de l'adversaire de Dieu, firent tout pour que l'enveloppe physique, l'être humain, charge toujours plus son âme par des comportements négatifs dirigés contre la création de Dieu. Ils manipulèrent les hommes de façon très habile, pour que leur âme s'assombrisse toujours plus et qu'ils continuent de se détourner de Dieu. Ils savaient qu'un rétrécissement progressif de la conscience mènerait pour finir à la dissolution du corps spirituel se trouvant au plus profond de l'âme, et qu'ainsi, l'identité spirituelle de l'être spirituel chargé disparaîtrait.
Zu allen Zeiten traten die Boten Gottes, die Propheten, die Mahner auf.
Il y a eu à toutes les époques des messagers de Dieu, des prophètes qui exhortaient l'humanité. Mais les êtres humains écoutèrent davantage les discours enjôleurs des prêtres que la parole de Dieu donnée à travers les prophètes. À travers les prophètes, Dieu montra sans cesse aux hommes la voie leur permettant de sortir de ces dangers qui auraient conduit à la dissolution des âmes et de toute la création. Mais à toutes les époques, la caste des prêtres, quel que soit le maître qu'elle servit et sert éventuellement encore, a toujours attiré le peuple dans ses griffes. Par leurs discours enjôleurs et à renfort d'encens, les prêtres influencèrent le peuple et embrumèrent tellement sa conscience que la pensée de la chute, le péché, continua à se propager. On n'écouta pas les paroles éclaircissantes des prophètes, on suivit les discours enjôleurs de la caste des prêtres et on continua à respirer leur encens.
L'amour de Dieu, notre Père céleste, pour ses enfants, les êtres spirituels qu'il a contemplés et fait naître dans son cœur, est inébranlable. C'est la raison pour laquelle, il y a de cela 2000 ans, il envoya sur la terre son Fils, le co-régent du royaume de Dieu. Parce que Jésus de Nazareth, un homme du peuple et le plus grand de tous les prophètes, nous permit de comprendre dans son sermon sur la montagne ce qu'est notre patrie éternelle, l'adversaire de Dieu entra en action de manière renforcée. Les discours enjôleurs appréciés par l'État romain de l'époque furent toujours plus nombreux. Jésus de Nazareth fut trahi et la population, embrumée par l'encens, s'écria tout d'abord « Hosanna », puis « Crucifiez-le ». Jésus, le Christ, fut jugé coupable, bien qu'il était innocent. Il porta une lourde croix jusqu'au mont Golgotha, se laissa clouer, se laissa railler par un des malfaiteurs crucifiés à ses côtés, tout comme le voulaient les instigateurs démoniaques au service des forces des ténèbres. Cependant, Jésus resta droit, et avant de remettre son souffle, la vie intérieure, le rayonnement de son cœur entre les mains du Père, il dit « Tout est accompli ».
Es ist vollbracht. Es ist also getan.
Tout est accompli. Tout a donc été fait. Qu'est-ce qui a été accompli? Qu'a-t-il apporté? Le co-régent des cieux, incarné en Jésus de Nazareth, a transmis à chaque âme une partie de son héritage divin. Cela signifie qu'il a ainsi stoppé le processus qui aurait conduit à la dissolution de l'âme. Sa lumière rédemptrice entraîna la victoire définitive sur tous les desseins négatifs de l'adversaire de Dieu. Depuis, la force salvatrice contenue dans cette étincelle rédemptrice unique exprime avec puissance « Les âmes peuvent se charger jusqu'à un certain point, mais pas au-delà ». De cette manière, Jésus le Christ a mis un arrêt définitif au souhait de l'adversaire de Dieu qui cherchait à dissoudre la création. Ainsi, les démons sont vaincus, même si leurs complices continuent encore à combattre sur terre ce qui ne peut plus être vaincu. Le vainqueur est déjà maintenant le Christ de Dieu, la lumière de la rédemption en chaque âme, en chacun de nous. Ce stop signifie en fait « jusqu'ici, mais pas plus loin ».
Nous, les êtres humains, nous pouvons bien sûr encore nous charger, mais plus au point de courir le risque de la dissolution. De plus, nous sommes conduits par la loi des semailles et des récoltes, qui est une aide pour nous et qui contient la miséricorde. Elle nous dit ceci, « Repens-toi de tes fautes, demande pardon et pardonne. » Et dans la mesure où nous ne répétons plus les mêmes fautes, notre charge est effacée. Grâce à l'aide et à la force du Christ de Dieu, chacun, à un moment donné, reconnaîtra ses fautes, s'en repentira, puis cessera de les commettre. Il se peut que certains doivent supporter les charges qu'ils ont créées, mais aucune âme ne peut être dissoute. Le royaume de Dieu, patrie éternelle en nous, est sauvé grâce aux mots humbles et simples prononcés par Jésus. Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le co-régent des cieux, incarné autrefois en Jésus de Nazareth, ressuscita et retourna dans la maison du Père. Cependant, il laissa en nous une partie de sa lumière céleste. On peut dire que c'est la force de notre frère céleste qui nous ramène à la maison de notre Père. Il y a 2000 ans, notre frère céleste s'incarna dans un petit enfant. Lui, le co-régent des cieux, Jésus de Nazareth, fut crucifié. Il ressuscita, puis retourna dans la maison de notre Père. Il est à la droite du Père céleste. Il rayonne vers nous la vie et une partie du potentiel de sa force primordiale, qui est pour nous l'étincelle de lumière qui nous montre le chemin. C'est la lumière rédemptrice, une aide et un soutien que nous apporte notre frère céleste, lui qui nous aime, nous, ses frères et sœurs, comme Dieu, notre Père, nous aime. Dieu, notre Père éternel, et le Christ, notre frère céleste, ne nous laisse pas seuls dans notre ignorance et nos croyances erronées. Aujourd'hui encore, nous recevons une multitude d'explications et d'indications à travers sa parole prophétique pour notre époque, donnée à travers Gabriel, qu'il nomme sa messagère et prophétesse.
Chers amis, c'est à juste titre que l'on peut dire que la mort, la dissolution des âmes, a été empêchée grâce à l'intervention du co-régent du royaume de Dieu, incarné autrefois en Jésus de Nazareth. De son temps, Jésus nous annonça qu'il retournerait auprès du Père. Pourtant, il nous expliqua aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que personne, quelle que soit la religion à laquelle nous appartenions, ne peut parvenir au Père sans passer par lui. Ces paroles faisaient référence à l'étincelle de lumière issue de son héritage divin. Cette étincelle qu'il transmit à chacun et qui est une partie de la lumière divine de notre frère. Elle est ancrée en nous et nous l'appelons la lumière rédemptrice.
Wir nennen es das Erlöserlicht.
Il y a donc environ 2000 ans de cela, le corrigeant des cieux vint sur terre et s'incarna dans le petit enfant Jésus. Les mages venus d'Orient reconnurent l'étoile qui se levait au-dessus de leur tête, la lumière et l'amour de Dieu, notre Père éternel. Ils apportèrent des cadeaux à l'enfant Jésus. J'appuie sur ce fait. Ils apportèrent des cadeaux à l'enfant Jésus. Ainsi, une question amère s'impose. Qu'est-ce que notre fête de Noël, à l'occasion de laquelle nous nous offrons mutuellement des cadeaux, a à voir avec cela? Qu'est-ce que les traditions du petit enfant Jésus et du Père Noël ont à voir avec cela? Nous attendons de recevoir des cadeaux de notre prochain au lieu d'offrir au Christ de Dieu ce qui serait essentiel. Il nous demande d'avancer pas à pas sur le chemin qu'il nous a enseigné lorsqu'il était Jésus de Nazareth, le respect de la création qu'il aimait, qu'il a sauvée et qu'il ramènera dans le royaume de Dieu. Jésus de Nazareth aimait les animaux. Il aimait la création, chaque plante, chaque pierre. Pourquoi? Parce que chaque forme de vie est la lumière créatrice du Père éternel, son Père, notre Père, et est un aspect de notre patrie céleste.
Beaucoup de personnes affirment être chrétiennes. Un très grand nombre de ceux qui se nomment chrétiens abattent des animaux, consomment la chair de leur corps mort, attendent de recevoir des cadeaux de Noël, parlent du petit enfant Jésus et chantent, motivés par les discours enjôleurs, « Venez les enfants, accourez, venez tous, voyez dans la crèche l'enfant nouveau-né. » Chers amis, si vous avez besoin d'un symbole pour prier plus consciemment, priez simplement devant la croix de la résurrection. Et tout spécialement à Noël, remerciez Dieu, notre Père, qui est grand et bon, de nous avoir envoyé son Fils. Le Christ, qui a repris sa place à la droite du Père en tant que corrigeant du royaume de Dieu, nous a apporté un merveilleux cadeau lorsqu'il était Jésus de Nazareth sur cette terre. Lui, notre frère, nous transmit une partie de sa lumière, la lumière rédemptrice, de sorte que chacun de nous puisse retourner dans la patrie éternelle en tant qu'être divin. Grâce au Christ, la mort cosmique, la dissolution de notre corps spirituel a été empêchée. Grâce à lui, Jésus, le Christ, la mort physique nous ouvre les portes vers la vie. C'est cela, Noël. C'est pourquoi, tout spécialement à Noël, le cœur des vrais chrétiens est empli de gratitude. Ils remercient en premier lieu le Père Céleste d'avoir envoyé son Fils sur terre il y a 2000 ans, lui qui est le corrigeant des cieux. Et nous le remercions, lui, le corrigeant des cieux, le Christ de Dieu, qui, soit dit en passant, fut livré à l'État romain par les prêtres, car sur la croix, il apporta à tous les hommes un présent d'une valeur inégalable. Une partie de son héritage divin afin que nous puissions retourner dans la maison de notre Père en tant qu'être divin.
Wieder zurückkehren ins ewige Vaterhaus.
Wahre Urchristen.
Tout particulièrement à Noël, les vrais chrétiens des origines remercient donc Dieu, le Père et son Fils qui s'incarna parmi les hommes en Jésus de Nazareth. C'est en homme simple et humble qu'il accomplit sa mission et resta fidèle à Dieu, son Père, jusqu'au bout. Nous commémorons ce grand événement qui eut lieu il y a 2000 ans. Les chrétiens des origines, eux aussi, prient à Noël. Ils se rassemblent devant la croix de la résurrection et du fond de leur cœur, ils expriment leur gratitude envers leur Père céleste et son Fils pour ce grand acte d'amour. Comme vous le voyez maintenant sur l'image, les chrétiens des origines prient devant la croix de la résurrection. Notre cœur est empli de peine à l'idée que justement à Noël, la plus grande fête de l'amour, commémorant l'amour de Dieu venu à nous dans l'enfant né près de Bethléem, soit organisée un tintamarre sans pareil, qui n'a en fait plus rien à voir avec le grand événement qui eut lieu il y a 2000 ans.
Von nahezu 2000 Jahren im Grunde nichts zu tun hat.
Den Menschen wird landläufig das Kindlein.
En général, à Noël, on montre l'enfant Jésus sous la forme d'une petite figurine couchée dans une petite crèche. Ensuite, à partir de cela, s'est développée la tradition du Père Noël. Cette image de mauvais goût est complétée par les chants enjôleurs de Noël comme « Venez les enfants, accourez, venez tous, voyez dans la crèche l'enfant nouveau-né ». Pourquoi ne peut-on pas tout simplement, pour fêter le grand événement qui eut lieu il y a 2000 ans, remercier de tout cœur Dieu, notre Père, et le Christ, le Fils de Dieu. Pourquoi toujours ressortir la crèche, la figurine du petit Jésus, le bœuf et l'âne, alors que la viande de leurs congénères se trouve sur toutes les tables lors des repas de Noël?
Chers téléspectateurs, chers amis, comment commémorez-vous le grand être céleste qui vint parmi les hommes il y a 2000 ans? L'adorez-vous dans la crèche ou remerciez-vous le Christ de Dieu qui, lorsqu'il était en Jésus de Nazareth, souffrit le martyre sur la croix et nous apporta son amour fraternel? Il nous transmit une partie de son héritage céleste, de la force primordiale, issue de la création éternelle pure, qui donna à chaque âme la force et le soutien énergétique dont elle avait besoin pour retourner à la maison du Père en tant qu'être divin. Si vous ressentez le besoin de prier, faites-le au plus profond de votre âme, là où brille la flamme rédemptrice, et ne prêtez plus l'oreille aux discours enjôleurs de ceux qui, attachés aux traditions ecclésiastiques, troublent les esprits. Je me permets de répéter, si vous le souhaitez, tournez-vous vers l'intérieur, vers la lumière rédemptrice. Priez et remerciez et gardez toujours à l'esprit que le Christ de Dieu est ressuscité et qu'il est retourné auprès du Père éternel. La croix de la résurrection ne porte pas le corps mort du Christ. Lorsque vous voyez une croix munie du corps du Christ, prenez conscience que c'est l'adversaire de Dieu qui souhaite le voir cloué ainsi plutôt que ressuscité. C'est pour cette raison qu'il est peut-être encore très souvent accroché à la croix du martyr. Pourtant, le Christ est ressuscité et son amour fraternel en tant que lumière de rédemption est vivant en nous, en chaque âme et en chaque homme.
Das ist Weihnachten. Das ist das Fest der Liebe.
C'est cela, Noël. C'est cela, la fête de l'amour. C'est le remerciement que nous pouvons adresser à Dieu notre Père, qui nous aime plus que tout, nous qui sommes ses enfants, ses filles et ses fils. C'est aussi le remerciement que nous pouvons adresser à son co-régent, incarné autrefois en Jésus de Nazareth. Des prières profondes et intenses adressées à la lumière rédemptrice en nous nous rendent libres et heureux. De telles prières ne sont pas tissées d'encens et de paroles enjôleuses. Jésus, le petit enfant, reçut des cadeaux. Nous qui avons reçu la rédemption, nous devrions lui faire chaque jour un cadeau, c'est-à-dire avancer jour après jour sur le chemin qu'il nous a enseigné en tant que Jésus de Nazareth. Car c'est notre chemin, celui qui nous mène directement à notre but, à notre patrie éternelle dans le royaume de Dieu, notre Père.
Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
Chers téléspectateurs, chers amis, après un bref intermède musical, nous allons entendre quelques chrétiens des origines prier en toute simplicité. Ils remercient Dieu, notre Père, qui nous aime tous, et remercient le Christ de Dieu qui vécut parmi les hommes en Jésus de Nazareth.
Unter uns Menschen war.